Bonjour, en compagnie de Mathieu Ordonneau à la technique, Didier Pilon, qui a le plaisir de vous retrouver sur les ondes de Radio Fidélité et de toutes les autres radios, pour que nous évoquions en cette période pascale une œuvre que l'on n'entend jamais, j'insiste bien sur ce terme, qu'on n'entend jamais, et qui est pourtant signée du grand Ludwig van Beethoven. C'est un oratorio que le jeune Beethoven a composé exactement en 1803 et qui s'appelle « Le Christ au Mont des Oliviers ». Donc j'ai choisi de vous présenter cette œuvre au moment justement du temps pascal parce que ça participe en quelque sorte à la passion du Christ, à cette dernière nuit sur le Mont des Oliviers avant que Judas ne le trahisse et ne le livre finalement aux soldats romains. Et donc c'est une œuvre qui est tout à fait attachante, et j'insiste vraiment, on ne l'entend jamais. Moi qui ai la chance d'aller souvent dans les concerts, même à la télévision et tout, j'ai jamais entendu une version de ce Christ au Mont des Oliviers qui porte l'opus 85 et qui a pourtant été entendue pour la première fois à Vienne le 5 avril 1803. Autrement dit, Beethoven, qui est né en 1770, vous faites le calcul, il n'a, si je puis dire, que 33 ans. Vous me direz, c'est l'âge du Christ. Mais c'est surtout encore un jeune Beethoven qui n'a pas encore, si vous voulez, la gloire qui arrivera quelques années plus tard, même s'il a déjà écrit un certain nombre de symphonies et de concertos. Je rappelle que Beethoven était né donc en Allemagne, dans cette très petite ville de Bonn, où il était le fils d'un musicien. Malheureusement, son papa était alcoolique et son papa rêvait de devenir finalement le Léopold Mozart. Il avait fait une sorte de transfert et il s'était dit, moi aussi, je vais faire de mon fils le plus grand des musiciens, comme Léopold l'avait fait vis-à-vis de son fils Wolfgang Mozart. Mais malheureusement, le père Beethoven n'était pas le père Mozart et il était surtout alcoolique. De sorte qu'aujourd'hui, on pense bien que cette surdité de Beethoven, elle est liée à des traumatismes qui étaient en fait des claques que lui donnait le père sur l'oreille et qui auraient donc suscité quelques années plus tard cette affreuse surdité qui a, il faut bien le dire, ébranlé Beethoven. Il a tellement ébranlé que quelques années plus tôt, avant la création donc de ce Christ au Mont des Oliviers, Beethoven a failli se suicider. Il avait même écrit un testament. C'était dans un carrefour, enfin dans une petite ville pas très loin de Vienne, Heiligenstadt, et on a ce fameux testament magnifique de Beethoven, le testament de Heiligenstadt, où il dit « je n'ai plus goût à la vie, je vais partir », etc., parce qu'il est déjà atteint par cette surdité qui ne l'a pas encore rendu totalement sourd, mais qui déjà affecte quand même beaucoup ses capacités auditives. Et donc, comme il n'a plus de plaisir, il songe vraiment à se suicider, à se jeter dans le Rhin. Et puis au dernier moment, dans le Danube, pardon, puisqu'on est à Vienne, on n'est pas à Berlin. Et donc, au dernier moment, il va se reprendre et finalement, il va se dire, eh bien, je vais me consacrer entièrement à mon art. Ô toi, la musique, c'est toi qui vas me sauver et c'est toi qui vas me permettre finalement de rester un homme. Et c'est ainsi que on sait très vite donc que Beethoven a souffert de cette surdité qui ne l'a pas empêché, fort heureusement, d'écrire des chefs-d'œuvre absolus, comme bien sûr la 9e de Beethoven. Alors, dans la production beethovenienne, il y a très peu de musique religieuse. Il y a une messe qu'il a composée en l'honneur d'un archiduc membre de la famille impériale des Habsbourg. Et puis, il y a sa grande et magnifique Missa Solemnis, qui est un monument absolument incroyable, qui dure plus d'une heure et demie et qui est, il faut bien le dire, un chef-d'œuvre. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres œuvres religieuses de Beethoven. Il y a deux cantates, une à l'occasion du décès de l'empereur Joseph II et une pour l'avènement de son frère Léopold II. Mais moi, je les qualifierais plus, si vous voulez, dans la catégorie des œuvres politiques et profanes plutôt que religieuses, même si c'est encore une fois une cantate qu'on interprétait bien sûr à l'église. Alors ce Christ au Mont des Oliviers, finalement, c'est une curiosité tout à fait étonnante de ce jeune Beethoven qui a eu du succès. Lorsqu'on a entendu pour la première fois le Christ au Mont des Oliviers, eh bien, on a été absolument heureux de cette musique et on ne comprend pas finalement très bien pourquoi elle n'a pas été davantage jouée. Alors aujourd'hui, eh bien, grâce à Radio Fidélité, nous allons tous entendre de larges extraits de cet oratorio qui s'appelle, je vous le rappelle, « Le Christ sur le Mont des Oliviers » et qui est signé Beethoven. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans cette introduction. Comme on est justement à quelques heures de la crucifixion du Christ, la musique est forcément grave, elle est forcément lente. Et c'est justement par un très bel adagio que s'ouvre cet oratorio de Beethoven. Thank you. L'adagio introductif donc à cet oratorio de Beethoven, encore une fois, qui n'est jamais donné, ce Christ sur le mont des Oliviers qui porte l'opus 85, ça voudrait donc dire que c'est la 85e œuvre, non pas que Beethoven a composé, mais qui a été dans l'ordre chronologique des éditions. Et c'est une œuvre qui, encore une fois, s'inscrit dans la tradition viennoise. Peu de temps auparavant, Beethoven a entendu de la part de celui qui a été son professeur, Joseph Haydn, un très bel oratorio qui s'appelle « La création ». Alors ça l'a inspiré. Il faut dire que, souvenez-vous, quand Beethoven quitte la ville de Bonn, on est en 1787, Beethoven a donc juste 17 ans, il ne rêve que d'une chose, c'est de devenir l'élève de Mozart. Malheureusement, lorsque le jeune Beethoven, âgé de 17 ans, arrive dans la capitale autrichienne, Mozart lui est parti à Prague pour diriger finalement son Don Giovanni. De sorte que le pauvre Beethoven, eh bien, il se trouve un peu livré à lui-même, parce que ce sont des nobles allemands qui ont payé son voyage à Vienne pour le sortir en fait des mains de son père alcoolique. Et donc, il est tout seul, le jeune Beethoven. Il ne sait pas où aller. Alors, il va devenir d'abord l'élève de Salieri. Puis, entre les deux, ils ne vont vraiment pas s'entendre. Et finalement, c'est Joseph Haydn qui va recueillir le jeune Beethoven. Et c'est pour ça que je dis toujours, la fameuse trilogie viennoise, la grande école de Vienne, c'est bien sûr Haydn, Mozart et Beethoven. Ils se retrouvent finalement tous les trois. Et donc, ce jeune Beethoven, il est l'élève de Haydn qui a un succès énorme avec cette création. Et donc, il se dit, à 30 ans, ben moi aussi, je suis capable peut-être d'écrire une sorte d'oratorio. Et c'est ainsi qu'il se met avec un certain enthousiasme et une grande réussite, je vous le dis encore, à cet oratorio. C'est quelque chose de très intimiste. Il n'y a que trois personnages dans cet oratorio. Il y a le Christ, qui est représenté par un ténor, avec une voix de ténor. Il y a l'ange, qu'on appelle le séraphin, qui est une voix de soprano. Et puis il y a Pierre, l'apôtre Pierre qui est là. Et lui qui sera interprété par une basse. Donc vous avez les trois voix, ténor, soprano, basse, les trois personnages. Et puis c'est tout. Il y a un peu de chœur pour rappeler quand les soldats romains vont venir arrêter le Christ. Mais c'est vraiment une œuvre tout à fait étonnant, tout à fait intimiste. Et au début, le Christ, il est vraiment là, je dirais, dans son aspect totalement humain. Il doute de lui. Il dit cette très belle prière que nous allons entendre dans quelques instants. « Ô roi des cieux, ô mon Père, je tends vers toi mes suppliantes mains. Voici l'instant marqué par ta colère. Les coupables humains de ta justice sévère vont accomplir les desseins. De l'archange, déjà, j'entends la voix terrible. Tu vas, dit-il, subir pour les mortels de Dieu, les décrets éternels, mon Père, me voici, d'un crime irrémissible, je supporterai seul le juste châtiment. Pourrait-il résister au fatal jugement? Ces mortels malheureux formés de la poussière, lorsque ton fils se courbe jusqu'à terre, mon cœur se brise en ce moment, ô mon Père, daigne m'entendre. » Voilà, c'est une très belle prière et c'est ce que nous allons justement entendre dans ce début de ce magnifique oratorio, le Christ au mont des Oliviers de Beethoven.
Kraft und stärke mich. Singet nun die Stunde. Seraphs Donnerstimme,
fordert auf, statt der Menschen sich vor dein Gericht jetzt stellen will.
Donc cette prière du départ du Christ, hein, interprétée ici par le ténor Keith Lewis, donc Jésus qui est en train de supplier son Père, de lui donner le courage, et il va même trembler, puisqu'à un moment donné, il va dire dans l'air que nous allons entendre, « Hélas, malgré moi, je succombe sous une invincible terreur à l'aspect hideux de la tombe, je sens glacer mon cœur, etc. » Donc il a peur finalement de ce sacrifice, et puis heureusement, il va y avoir l'ange, le séraphin, donc, qui va être interprété par une soprano, qui va arriver, qui va lui dire « Tremble, etc. Mais le Fils de Dieu souffle pour toi par l'Éternel abandonné. Eh bien, n'aie pas peur finalement, ce trépas volontaire brise pour les hommes les chaînes du néant. Le Christ, en expirant, sauve en ce jour la terre. » Et donc, c'est ainsi qu'il y a ce très bel air donc, entre Jésus qui a peur et l'ange qui vient à la fois lui annoncer en effet qu'il va mourir, mais que c'est pour le bien des hommes et que Dieu ne l'a pas oublié.
Von den Qualen, die mir träumen, Schrecken fast, und es zittert, grässlich staunend mein Gebein. Wie ein Fieberfrost ergreifet mich die Angst,
möglich nie. Schweißes Blut, Blut heran.
La prière donc de Jésus, interprétée, je vous le rappelle, par le ténor Case Lewis, au moment donc où va arriver cet archange, ce séraphin, qui est interprété, je vous le rappelle, par une soprano, qui va d'abord dire « Voici la détresse de Jésus, aie peur, terre, etc. » Mais ensuite, on va pas tout entendre à l'oratorio, on va maintenant enchaîner avec un air avec cœur qui est très beau, où justement l'archange dit « c'est un grand air, vous allez voir, de soprano, avec une partie importante du cœur. » Et c'est là où on va dire « Mais non, Jésus, c'est ton sacrifice, mais tu vas sauver les hommes, etc. » Et donc, en quelque sorte, le séraphin vient un peu réconforter Jésus, qui est tout à fait angoissé. Je rappelle que c'est la veille de son arrestation, hein, et que dans quelques heures, c'est Judas qui le désignera aux soldats romains qui iront bien sûr le faire prisonnier. Donc tout de suite, le très bel air, assez long, avec cœur, de l'ange, de l'archange séraphin, qui vient rassurer Jésus en lui disant « Oui, ton sacrifice est grand, mais il est là pour sauver toute l'humanité. »
Thank you.
avouer que c'est quand même... On y retrouve tout Beethoven, hein. On entend déjà Fidelio, on entend des choses, c'est normal, puisque c'est une œuvre, encore une fois, qui est presque de la maturité de Beethoven. Il a 33 ans, on est en 1803, et je rappelle que c'est donc un extrait du fameux oratorio « Le Christ au Mont des Oliviers » que Beethoven a composé, donc, dans la foulée, finalement, de ce qu'avait fait Haydn avec la création. Alors, on est maintenant... Après cette partie un peu triomphale, où il faut bien le dire, l'ange est venu réconforter Jésus, on va être maintenant dans la période de doute, où là Jésus quand même reprend en quelque sorte son angoisse devant la mort, et là il va y avoir une sorte de séparation tout à fait dramatique, assez sombre finalement. Ce dialogue continue entre l'archange, le séraphin, qui vient encore une fois réconforter Jésus, tout en ne lui cachant pas toutes les douleurs qui l'attendent, et c'est justement cette partie-là maintenant que nous allons entendre, ce très beau duo entre donc le Christ, représenté par un ténor, je vous le rappelle, et l'ange, représenté par une soprano, où là, il est question bien sûr de la mort qui va arriver et de la séparation nécessaire du monde de la terre pour le Christ. C'est encore une fois une partie un peu plus sombre, mais qui montre bien la profondeur d'âme quand même de Beethoven.
Thank you.
Voilà, donc ce très beau duo hein, entre, encore une fois, l'ange, l'archange et Jésus, interprété ici par Maria Venuti, l'ange, Jésus Case Lewis, et on va entendre dans quelques instants Pierre, qui sera interprété lui par une basse en la personne de Michel Brodard. Je rappelle que c'est l'ensemble Bach Collegium de Stuttgart qui est placé sous la direction de Helmut Rilling et qui nous donne l'occasion eh bien, de découvrir, et j'espère que c'est le cas aussi, vous chers auditeurs, ce magnifique oratorio de Beethoven. Alors la première partie, c'était donc la nuit. C'est là où Jésus doute et il s'est retiré, hein, on le sait, sur le mont pour prier en quelque sorte. Et puis là, maintenant, on va arriver dans la deuxième partie qui est l'arrestation du Christ. Et sans plus attendre, je vous propose d'écouter les soldats romains qui disent « Oui, oui, ça y est, on l'a reconnu, c'est bien lui. » Judas les a accompagnés, a désigné le Christ en l'embrassant. Et donc, du coup, les soldats vont dire « C'est bien lui, nous l'avons vu. » Et ils vont arrêter le Christ. C'est un cœur, vous allez le voir, assez martial. Le cœur où on reconnaît le Christ, puis il va y avoir une crise qui, encore une fois, va se recueillir et les soldats vont l'emmener. Et puis on arrive à ce passage très beau, ce trio qui est presque à la fin de cet oratorio, trio où on va entendre enfin les trois voix réunies, Pierre par la basse, l'ange Séraphin par la soprano et Jésus par le ténor, où là, eh bien, il y a ce magnifique trio où on va avoir, encore une fois, le Christ qui se prépare véritablement à la mort, Pierre qui lui est désespéré, qui va lui dire évidemment qu'il le soutient, mais vous savez qu'il le reniera au moins trois fois avant le chant du coq et qu'il sera malheureux, ce qui explique d'ailleurs que Pierre, par modestie vis-à-vis du Christ, et peut-être un peu pour expier davantage ses fautes, se fera crucifier la tête en bas. Mais pour l'instant, on en est au moment où donc Pierre demande au Christ de s'enfuir, en lui disant « Allez, va-t'en, sauve-toi Jésus, tu peux encore ». Mais le Christ ne veut pas, évidemment. Il y a ce très bel ensemble entre, d'une part, le Christ, Pierre et l'ange. Et vous allez voir que si on commence d'une manière assez noire, on va terminer sur une note de couleur, d'une beauté. C'est normal, c'est l'espoir, puisqu'on sait qu'après la mort, eh bien, le Christ va ressusciter. Et ça donne justement à Beethoven l'occasion d'écrire un très beau duo que je trouve particulièrement joyeux, si je puis dire, en l'occurrence, bien qu'il s'agisse de la dernière nuit et de l'arrestation du Christ au Mont des Oliviers.
Gerechter Zorn und Wut, gerechter Zorn.
Lass meine Rache kühlen in der Verwegenheit.